15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la déconnexion. Sommes-nous vraiment tous accros à nos smartphones, à nos tablettes et autres montres connectées? Quels sont les dégâts que ces outils, pourtant très utiles aujourd'hui, peuvent entraîner sur notre santé et nos liens avec les autres? Avec notre invité Léonard Anthony, spécialiste en hypnose et en autodéveloppement, nous ferons le point sur comment se détacher un peu de tous ces objets et les bienfaits qu'on peut en attendre. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un problème assez courant à cette période de l'année, l'intoxication alimentaire. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler de nos dents et surtout des caries. Comment se forme-t-elle cette carie et pourquoi certains en ont plus que d'autres? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on verra s'il est vraiment nécessaire d'informer son ado bientôt en âge d'avoir des rapports sexuels. Jusqu'où peut-on ou doit-on aller en matière d'éducation sexuelle?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Marguerite, 36 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je me permets de vous appeler, j'ai une petite question, je suis un petit peu inquiète. Ma fille de 7 ans a déjà des poils pubiens et je me demande si c'est normal. Ça m'inquiète un peu, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Merci beaucoup, au revoir.
Alors c'est vrai que Jimmy, on a l'impression ces dernières années que des cas de puberté précoce, il y en a de plus en plus. En tout cas, on en parle beaucoup plus dans le milieu médical. Mais d'abord, expliquez-nous quand réellement on peut parler de puberté précoce chez une petite fille.
Alors c'est vrai que les endocrinologues le disent de plus en plus, ils en voient de plus en plus tôt. Et si on peut vous donner un repère, c'est qu'en 1850, en Europe et aux États-Unis, les premières règles survenaient à l'âge de 17 ans.
Ah oui, c'est très très tard, effectivement.
Désormais, chez nous en Occident, c'est plutôt 12 ans. Et il n'est plus rare de voir des pubertés précoces avec des règles avant 10 ans ou des caractères sexuels secondaires qui apparaissent avant 8 ans. Et c'est le repère qu'il faut retenir. Si vous avez l'apparition chez votre petite fille de caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire une pilosité ou l'apparition de seins avant 8 ans, c'est une indication à consulter chez la petite fille. Ou si vous constatez une pilosité anormale chez un petit garçon avant 9 ans...
Une augmentation de la taille des testicules, je crois, aussi.
Exactement. Hein. C'est un critère qui doit vous faire consulter puisque ça oriente vers une puberté précoce.
Donc là, cette maman, elle parle de sa petite fille qui a 7 ans, qui commence déjà à avoir des poils. Vaut mieux qu'elle consulte, effectivement.
Oui, alors, soit le pédiatre, soit un endocrinologue, puisqu'il va l'examiner, puisqu'il va vérifier, bon, il y a les poils, mais aussi l'examen des seins, les organes génitaux externes. Et puis, il va regarder aussi sa courbe de croissance. Une puberté précoce démarre aussi avec une croissance qui est beaucoup plus rapide que
qui s'accélère.
Et les filles grandissent plus vite que la normale. Elles gagnent entre 8 et 10 cm par an, contre 5 habituellement. Et à ce moment-là, il prescrit un bilan sanguin, un bilan hormonal. Il fait aussi faire une échographie pelvienne pour être sûr que l'utérus et les ovaires sont de taille normale. On prescrit aussi une radiographie du poignet pour voir s'il y a une corrélation entre ce qu'on appelle l'âge osseux et l'âge réel. Et puis, dans certains cas, il prescrit aussi une IRM cérébrale pour être sûr que l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire c'est la centrale qui régule les hormones, ne présente pas d'anomalie et notamment une tumeur plutôt bénigne
qui pourrait être la cause
d'une accélération de cette hormone.
Alors, une fois qu'on a le diagnostic, on peut la bloquer, cette puberté précoce, je crois.
Oui, et on ne la bloque pas chez tout le monde. Tout dépend de plusieurs critères. Le premier, c'est le pronostic de taille. Puisque le fait d'avoir une puberté précoce accélère la croissance, mais la maturation osseuse arrive bien plus tôt. Ce qui veut donc dire qu'une puberté précoce non traitée, chez une petite fille, a un pronostic fonctionnel au niveau de la taille. Elle peut mesurer juste seulement 1m50 au maximum. Et puis, ça va dépendre aussi de l'âge à partir duquel on suppose que les règles vont arriver. En règle générale, elles surviennent 2 à 3 ans après les premiers signes. Donc, on traite au cas par cas.
Et ce traitement, rapidement, c'est quoi? C'est des piqûres?
C'est des injections d'hormones, on appelle ça des analogues de la GnRH, qui permettent de bloquer le système hormonal. Et pour garder un pronostic de taille, on fait ça tous les mois ou tous les 3 mois, et c'est très bien toléré.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on consacrera bientôt une émission plus complète à ce sujet de la puberté précoce. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Sophie, 38 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy, je vous appelle car j'ai remarqué que j'avais des petites poules de graisse sous les bras. Alors je suis allée voir un dermato qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, mais quand même ça me travaille un peu. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Alors Jimmy, d'abord, expliquez-nous ce que c'est précisément un lipome.
Lipome, c'est rien d'autre qu'une boule de graisse. C'est moche, ça sert à rien, ça fait pas mal. C'est une tumeur bénigne graisseuse. Alors quand on dit tumeur, ça fait très peur.
Bah, un peu, oui.
Oui, mais globalement, c'est des tuméfactions qui sont mobiles, indolores, qui peuvent siéger sur tout le corps, mais souvent au niveau des bras, du dos, parfois au niveau du cou. Le seul préjudice est esthétique et c'est le médecin qui pose le diagnostic.
Mais c'est vraiment toujours bénin parce que vous parlez quand même de tumeur, donc on peut comprendre que ça peut effrayer certains patients.
Oui, lorsque le tout, c'est de ne pas se passer à côté d'autres diagnostics, des ganglions, une adénopathie, quelque chose qui serait plus inquiétant. Mais si c'est un lipome, c'est sans danger, sauf si vraiment ça comprime un organe, mais que c'est profond, mais ça reste rare. Le seul préjudice, il est esthétique.
D'accord, donc on consulte son généraliste ou son dermato pour vérifier. De toute façon, il vaut mieux être certain justement que c'est un lipome et pas autre chose. C'est pour ça qu'il faut consulter quand
Exactement.
Même.
Exactement, la palpation suffit en règle générale pour faire le diagnostic. On a une tuméfaction qui est plutôt molle, malléable, indolore, qui évolue peu dans le temps. Parfois, on fait une échographie ou une IRM lorsqu'on a le doute. Et puis, si on veut vraiment le retirer, le traitement est chirurgical. Mais attention, la cicatrice laissée est souvent très importante. Donc, avant de retirer un lipome, il faut bien réfléchir.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Sophie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler, c'est la saison de l'intoxication alimentaire. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, Léonard Anthony, avec qui on parle aujourd'hui de notre addiction aux écrans. Comment s'en défaire un peu au moins ? Il nous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, Léonard Anthony, qui va nous aider à nous déconnecter un peu des écrans, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, c'est la saison des huîtres, des crustacés et autres fruits de mer. Mais c'est aussi dans cette période où on risque du coup une intoxication alimentaire. Non, c'est quoi d'ailleurs l'intoxication ?
Eh ben, c'est l'apparition d'au moins deux cas d'une symptomatologie qui est plutôt digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Donc il faut être plusieurs, avoir partagé le même repas,
diarrhée,
et avoir globalement les mêmes symptômes.
C'est ça les symptômes, hein, on est d'accord. Les fruits de mer sont souvent incriminés dans ces intoxications. Hein.
Exactement, parce que là c'est la saison, mais pas que. On a principalement aussi les viandes, de volaille, les aliments à base d'œufs, le lait. Et c'est lié souvent à un non-respect de la chaîne du froid. Vous achetez votre poisson, il est frais, il est surgelé ou pas. Vous le laissez trop longtemps dans la voiture, vous le faites cuire ensuite à la maison et à ce moment-là, vous tombez malade. Mais ça peut être lié aussi à une erreur dans la préparation des aliments ou parfois un délai trop important entre préparation et consommation. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs agents responsables de cette intoxication. On a les salmonelles, ça concerne plutôt les aliments qui sont peu ou pas cuits, notamment la volaille, les viandes ou les fruits de mer. On a aussi le staphylocoque aureus qu'on retrouve dans le lait ou les plats qu'on aurait cuisinés la veille et qu'on aurait laissé traîner avant de les mettre au frais. Et puis on a aussi des gens qui sont porteurs de ce staphylocoque et qui ne vont pas bien se laver les mains.
Ah
d'où
oui,
l'idée
en cuisinant,
de...
oui, bien
Exactement.
Sûr.
Mais on a aussi ce qu'on appelle les norovirus qui sont principalement dans les coquillages, les crustacés, dans les crudités. Et puis on a aussi un autre agent qu'on appelle le Clostridium perfringant, voilà. Qui donne aussi, donc bref, il n'y a pas une intoxication alimentaire, mais plusieurs intoxications
D'accord,
alimentaires.
D'accord, tous des noms de bactéries compliquées. Les symptômes, on en a parlé un petit peu, mais c'est les mêmes que pour une gastro-entérine, quoi. C'est ça
oui, c'est diarrhée, douleur abdominale, vomissement, souvent on a peu de température, mais les symptômes dépendent de la bactérie qui nous a infectés. Si vous avez attrapé une salmonelle, vous aurez ce qu'on appelle un syndrome dysentérique, c'est-à-dire une diarrhée avec du sang,
d'accord.
Souvent, beaucoup de température, des maux de ventre, puisque la bactérie envahit les cellules épithéliales, elles s'y multiplient et détruisent vraiment l'épithélium digestif. On a dans ces cas-là du sang et des glaires dans les selles, c'est
oh là
pas
là,
très
ouais,
sympa, ça touche le colon.
Hein, ouais.
Par contre, si vous avez la chance d'avoir le staphylocoque aureus,
là
vous aurez une diarrhée choléréiforme, donc comme le choléra.
Oh, alors on veut pas les couleurs, tout ça, c'est bon, Jimmy.
Mais c'est une diarrhée
pas.
Hydrique, c'est de l'eau.
Ah,
la toxine sécrète
pas trop
énormément
de détails,
d'eau.
De l'eau, voilà.
Exactement,
c'est ça.
Vous aurez mal au ventre, mais peu de fièvre. Bref, ça ressemble à la gastro, mais vous avez mangé globalement des huîtres pas très fraîches.
D'accord, bon, ça peut gâcher un peu le week-end ou la soirée quand même, mais ça se traite rapidement, dites-nous.
Oui, c'est assez simple. Antidiarrhéique, repos digestif, une bonne hydratation. Attention, c'est les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les enfants.
Et si ça passe pas, par contre...
Vous consultez, ouais. Puisque déjà on pose le diagnostic. Et puis, dans des cas un peu avancés, on peut vous faire hospitaliser pour vous réhydrater aux urgences.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Léonard Anthony, il est spécialiste en hypnose et autodéveloppement. Il est aussi l'auteur du livre Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Léonard Anthony.
Bonjour Mélanie.
Alors, est-ce que selon vous aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler des écrans, des smartphones, des tablettes, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment parler d'addiction ? Est-ce qu'on est tous accros au numérique ou pas ?
Alors, c'est une vraie question parce que les spécialistes débattent sur le sujet. Il y a une partie de la population scientifique qui dit qu'il n'y a pas d'addiction. Ce n'est pas un phénomène addictif parce que quand on retire le téléphone, on n'observe pas de comportement addictif. Et puis, il y a une autre partie de la population scientifique qui dit ben, non, ça se rapporte vraiment à une addiction. Donc, il y a un débat là-dessus. Néanmoins, il y a deux études qui sont intéressantes à citer, en particulier une auquel je pense, qui est un test qui a été fait sur des enfants adolescents dans plusieurs pays dans le monde. Mmh. Où on leur a enlevé pendant une journée leur téléphone et on a observé des comportements assez intéressants. Ils se mettent à développer des colères, à ne pas savoir quoi faire, à se ronger les ongles. Ah oui. Et tout un nombre de symptômes qui relèvent assez fortement du manque. Alors évidemment, la question c'est quand on les laisse au bout de quelques jours, ce manque commence à tarir. Mmh. Ce qui n'est pas le cas avec des drogues plus dures ou autres.
Jimmy ?
Comment savoir si on est accro justement au smartphone ? On pense tous ne pas l'être. Est-ce que vous avez un moyen simple pour peut-être nous faire prendre conscience du problème ?
Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je sors de chez moi pour aller dîner avec mes enfants. Je fais 300 mètres et je me rends compte que je n'ai pas pris mon téléphone portable.
Oh, catastrophe, là, c'est le drame. Je fais demi-tour.
Jimmy tremble et il palpite, là, il a des transpirations.
Moi, je me rends compte dans l'ascenseur que je n'ai pas mon téléphone.
Bon, déjà, c'est pas mal, mais vous imaginez à 300 mètres. Donc, moi, mon réflexe, jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler sur ce livre, c'est je faisais demi-tour. Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, mais attends, tu ne peux pas passer la soirée juste à dîner avec tes enfants. Moi, je ne suis pas médecin urgentiste, donc je ne sauve pas des vies. Il n'y a rien d'urgent. Et à être présent avec eux juste à ce moment-là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On dîne, puis on regarde son téléphone, et on dîne, et il dîne, et il vibre, etc. Donc si la simple idée de ne pas avoir votre téléphone pendant quelques heures, voire même 15 minutes, vous chatouille, à mon avis, il y a quelque chose à regarder. Et ce qui doit concerner beaucoup de gens, je crois.
Parce qu'on sait, effectivement, ça a été étudié aussi, hein, ça, les actions qu'on a sur son téléphone, c'est énorme, le nombre de fois par jour.
Les études ont démontré qu'en moyenne, on va déverrouiller son téléphone 10 fois par heure et qu'on a 3500 actions. C'est-à-dire, on va taper 3500 fois sur son téléphone. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait autre chose, un autre objet avec lequel on a un tel rapport. Ce qui m'est amené à me questionner, et c'est tout le sujet de ce livre, en tout cas de cette partie, c'est est-ce que c'est nous qui tenons le téléphone ou est-ce que c'est le téléphone qui nous tient ?
Alors on va en parler dans un instant. Vous allez nous apprendre à lâcher un peu nos smartphones, à recharger du coup nos vraies batteries, les nôtres, pas celles de nos téléphones. On continue cette discussion très vite.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Léonard Antoni, les spécialistes en hypnose et en autodéveloppement. Je crois qu'il y a une phrase dont vous parlez dans votre livre qui en dit beaucoup sur nous. Hein, une phrase qu'on a tous dit tous les jours. Jimmy, je suis sûr que ça va vous parler. Le fait de dire « j'ai plus de batterie, est-ce que tu n'avais pas un chargeur ?» C'est déjà une preuve qu'on s'est complètement fondu dans notre téléphone. Hein.
Oui, alors j'ai un souvenir assez éloquent sur le sujet. Un jour, j'animais un atelier que j'avais appelé « Exploration du silence » pour voir qu'est-ce qui se passe quand on est en silence et qu'on fait des choses en silence. Et un monsieur arrive transpirant, presque paniqué, et me dit « j'ai plus de batterie, auriez-vous un chargeur ?» Et je lui ai regardé, je lui ai dit « c'est une excellente nouvelle, si vous n'avez plus de batterie, on va pouvoir les recharger, mais pas ceux de votre téléphone. » J'ai quand même branché son téléphone sur son secteur. On n'est pas torturé, sinon je pense qu'il ne pourrait pas s'asseoir.
Mais j'ai plus de batterie, c'est pas lui qui a pas de batterie, c'est le téléphone.
Mais en réalité, vous voyez, ce que je constate de plus en plus quand je reçois, c'est que le téléphone est devenu une extension du corps humain pour beaucoup de gens. À commencer par moi. Alors je ne me fais pas chantre.
Vous n'êtes pas parfait.
Et pour moi, c'est une vraie réflexion en continu. Et le vrai sujet, c'est que nous déléguons un certain nombre de fonctions à notre téléphone. Nous déléguons notre mémoire qui se souvient d'un numéro de téléphone aujourd'hui qu'on vous communique.
Mémoire, moi, je me rappelle juste du fixe dessus de mon enfance, qui n'existe plus d'ailleurs,
mais c'est le seul que j'ai retenu. Vous allez mémoriser des informations d'une autre époque. Qui se déplace dans la rue, à trois rues d'à côté en sortant du métro, sans allumer le GPS et en mettant un plan. Donc notre capacité à nous orienter commence à être déléguée. Et donc un certain nombre de fonctions se délèguent. Donc il est légitime que quand notre téléphone n'a plus de batterie, on ait l'impression que c'est nous qui n'avons plus de batterie. Donc il est aussi urgent de commencer à repenser notre relation à cet objet, aux objets numériques plus largement qui vont déferler dans les 5 à 10 ans qui viennent. Les objets numériques vont faire partie de l'intégralité de ce que vous portez sur vous, vos t-shirts, vos vêtements, vos baskets. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on préserve une partie de notre humanité, de nos capacités cognitives dans ce contexte évolutif.
Jimmy ?
Et vous dites qu'on délègue des tâches au téléphone, c'est-à-dire qu'on a moins de capacité de mémoire, d'orientation, mais du coup, si on délègue ces tâches, on devrait se sentir mieux. Et contrairement, et vous dites paradoxalement que plus on est hyper connecté, plus on est fatigué. Donc,
alors qu'on délègue. Alors qu'on délègue. Bizarre, ouais.
Oui, parce qu'en réalité, il y a plusieurs facteurs qui sont corrélés. Bien sûr, on délègue. Mais en parallèle, on reçoit une overdose d'informations. Je pense notamment, si vous laissez votre téléphone avec toutes les alertes possibles et imaginables qui viennent vous déranger en permanence, vous allez avoir des micro-coupures d'attention. L'attention, c'est un facteur, C'est une monnaie pour les startups, votre attention. Donc, ils vont chercher à l'identifier et à la solliciter en permanence. On parle de deux types de facteurs. Les Américains ont fait des études là-dessus. La première, c'est liée au téléphone portable, la fatigue du désastre. Parce que les gens se réveillent au milieu de la nuit, par exemple, ils ont une insomnie. Première chose qu'ils font dans la moitié des cas, les études montrent que la moitié de la population mondiale qui a un téléphone, aujourd'hui, regarde son téléphone.
Et à ce moment-là, c'est pour regarder l'heure en général.
Et ça commence
en général,
ça.
Si je vois une notification, je la lis quand même.
Exactement. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui tombent, qui sont des mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des facteurs d'anxiété qui naissent et donc on s'épuise en plein milieu de la nuit, on ne dort plus.
Être hyper connecté, c'est être hyper fatigué en fait.
Eh bien, il y a ces dimensions-là. Et la deuxième fatigue qui est associée, c'est la fatigue décisionnelle. Alors, pour faire bref, la fatigue décisionnelle, c'est il faut imaginer votre capacité de prendre une décision comme un muscle. Si vous faites trop de pompes, vos bras se fatiguent, vous êtes obligé d'arrêter.
Sauf les miens, ne vous inquiétez pas.
Ouais, il peut faire 250
ça, pompes, j'ai remarqué, j'ai le privilège, contrairement aux auditeurs de m'en face.
Ah ouais,
moi, déjà,
une musculature dingue.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, moi, je me sens maigri.
Continuez, c'est beaucoup plus intéressant que les muscles de Jimmy.
Donc, ma fatigue décisionnelle, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une théorie qui est utilisée depuis toujours. Dans les supermarchés, on vous met des rayons pour choisir la lessive, des rayons pour choisir les céréales. Vous choisissez, vous commencez à épuiser votre fatigue décisionnelle et quand vous arrivez à la caisse, on vous met des sucreries. Là, vous cédez. Le numérique fait la même chose. Toutes les boîtes vous envoient des newsletters, des notifications, des mails, des SMS, des WhatsApp, des Insta. Et donc, à force, vous allez être usé. Et votre capacité de décider s'use et se fatigue.
Et pour les gens qui sont trop usés, vous m'avez parlé d'un collègue à vous à Londres qui avait créé, un atelier où des gens viennent juste pour éteindre leur téléphone. Comme si, on est fatigué, on devrait pouvoir y arriver. Il y a des gens qui payent pour ça. C'est quoi le but de ces activités-là qu'ils proposent à Londres?
C'est un paradoxe. Alors là, c'est un centre de thérapie où il y a des praticiens, des thérapeutes qui reçoivent des gens. Puis ils ont créé des ateliers pour faire de la méditation, etc. Et lui, il a cette idée assez singulière de dire « Je vais proposer un atelier où on ne va rien faire. » C'est l'idée du siècle. Hein,
chacun fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut. Donc les gens viennent. Il n'y a personne pour les encadrer. Donc c'est la solution économique la plus rentable.
Et il fait payer pour ça.
Donc les gens payent pour venir éteindre leur téléphone. Et donc ils payent. Et il me dit c'est l'atelier qui est complet tout le temps.
T'imagines
c'est...
Mélanie, demain on ouvre un atelier. Je vous le dis tout de suite, l'auditeur d'Europe 1, la semaine prochaine, Gomez
atelier
et Mohamed.
Pour rien faire.
Oui. Mais vous ne pouvez pas faire sans moi.
Effectivement.
Je suis très marqué.
Et c'est son atelier qui est le plus plein des gens.
Et c'est l'atelier.
Parce qu'on n'arrive pas à le faire tout seul, c'est ça.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose là-dedans et ils sont prêts à payer pour aller avoir le droit d'éteindre leur téléphone portable. Et donc, pour être présent finalement à quelque chose qu'ils vont faire, lire, écouter de la musique. Parce que sinon, prenez l'exemple, je crois qu'il y a une étude qui a démontré que 85% des gens allument leur téléphone portable quand ils regardent un film.
Oui.
Ah oui, mais c'est vrai que ça agace ma femme, ça, en
effectivement.
Plus.
Effectivement. Alors, pour autant, vous n'êtes pas quand même complètement contre toutes ces nouvelles technologies. D'ailleurs, vous-même, vous êtes un geek. À 14 ans, déjà, vous saviez coder. Donc, vous êtes pas, il ne faut pas tout jeter non plus, on est d'accord?
Absolument pas. Moi, j'adore les technologies. J'ai créé une start-up que j'ai même cédé après. J'ai fait partie des gens qui ont pensé le livre électronique. Donc, je suis complètement pour les technologies. Je vais vous donner un exemple, mais la technologie sert en médecine. Aujourd'hui, les implants pour le diabète permettent d'éviter d'être piqué je ne sais pas combien de fois, et donc soulagent de la douleur. Il y a plein d'applications. Les sciences et les technologies font avancer l'humanité.
Ça a du bon, ouais.
Évidemment. La question que je posais au début, c'est est-ce que c'est vous qui vous servez de la technologie ou est-ce que c'est la technologie qui sert de vous? Aujourd'hui, l'ensemble des services connectés, toutes les applications qu'on utilise sont connectés à des mainframes, à des clouds. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes en train de devenir des terminaux, c'est-à-dire des ordinateurs in fine avec cette extension qui nous relie, qui prennent une décision sur nous, ou est-ce que nous avons la capacité de décider de notre vie en relation avec des objets qui nous apportent énormément de choses? Ce n'est pas le même paradigme.
Alors, Léonard Anthony, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe à la pratique. On va vous donner plein de conseils pour reprendre le pouvoir sur les écrans, ne plus être accro, mais apprendre à vivre intelligemment et surtout sereinement avec votre smartphone, par exemple. L'auto-hypnose, notamment, peut vous aider. On vous dira comment. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Léonard Anthony. Alors, il y a quelques minutes, on a parlé beaucoup des dégâts potentiels des écrans, des smartphones quand on est en surdose. Maintenant, on va passer aussi aux astuces un petit peu détox, entre guillemets. Qu'est-ce que vous conseillez? Il y a des choses qu'on peut faire assez simples. Vous disiez, vous, pendant le resto, l'exemple que vous avez donné, c'est quand vous partiez au resto avec vos enfants. Un jour, vous dites, mais c'est pas possible, je l'ai oublié, mais je vais le laisser pour une fois. Ça peut commencer par ce genre de petites choses?
Oui, ça peut commencer par laisser son téléphone se reposer. Voilà, parce que lui aussi, il est fatigué. Et il peut se recharger pendant ce temps-là. Et donc, vous pouvez explorer des dynamiques qui sont souvent source d'épuisement par les téléphones. Je vais vous donner deux exemples. La première des choses, c'est l'épuisement lié au fait qu'on n'est plus en relation. Quand on est avec des gens et qu'on regarde son téléphone, le nombre de fois, faites l'expérience, allez au restaurant, regardez les couples autour de vous, vous verrez qu'à un moment donné, les deux regardent leur téléphone. Ils ne se regardent plus, ils se parlent.
C'est triste, hein, c'est vrai.
Et c'est une vraie, c'est un moment, quand on est sur son téléphone, c'est au détriment du relationnel. Et le relationnel, c'est quand même quelque chose de fantastique. Vous avez des enfants, bah vous ne voyez pas vos enfants grandir si vous passez votre temps sur votre téléphone. Et allez leur expliquer qu'il faut passer moins de temps sur leur téléphone si vous, vous passez tout votre temps sur le téléphone. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de photographier tous vos plats, tout ce que vous faites. Oui, il y a une photo qui circulait sur les réseaux sociaux qui était vraiment intéressante. On voyait plein de gens dans un défilé de on ne sait pas quoi, avec leur téléphone en train de filmer l'événement. Il y a une grand-mère qui est là, qui regarde avec ses yeux.
Ouais.
Et donc, là aussi, à force de ne pas solliciter ses sens, à force de manger, après avoir pris 42 photos, le plat refroidi, on n'éveille pas ses narines, les valeurs olfactives, le goût, on ne salive plus. Donc à partir de ce moment-là, on s'alimente plus, on commence à manger n'importe comment. Ne plus être avec les gens, c'est pareil, ne plus écouter ce qui se passe. Donc le fait de juste mettre son téléphone au repos vous réouvre et vous reconnecte à l'ensemble du vivant.
Dans les effets néfastes, il y en a aussi beaucoup sur le sommeil, vous en parlez dans votre livre. Vous avez plein de patients aussi qui viennent vous voir car ils dorment mal et souvent le problème, en fait, il est juste là.
Alors moi, je répète toujours, je n'ai pas de patients, j'ai surtout des impatients. Des gens qui veulent aller trop vite, qui veulent se soulager trop vite. Mais vous voyez, je crois que là encore, les études disent que c'est au moins une personne sur deux regarde son téléphone avant de se coucher. C'est la dernière chose que la personne va faire, même après avoir fait l'amour. Et va allumer en se réveillant, la première chose qu'elle fait, c'est allumer son téléphone. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez faire de façon systématique? Tout est là. Moi, par exemple, on a mis en place une chose à la maison, c'est qu'on a une borne de chargement dans le salon et tout le monde met son téléphone autour de la borne.
Papa, puis nous, maman, les enfants, tout le monde.
Ouais. Après, si un jour, je ne vous cache pas la vérité, je ne vais pas vous raconter des histoires, il y a des fois où je monte avec mon téléphone. Il ne s'agit pas d'absolu, il s'agit de créer des dynamiques et des espaces. Parce que c'est une tentation extrême quand on a son téléphone à côté de son lit, de tout d'un coup de l'allumer au milieu de la nuit et donc de créer des insomnies qui peuvent être néfastes.
Jimmy ?
Et est-ce que vous avez un truc imparable face à quelqu'un qui n'arrêterait pas de regarder son téléphone et pour qui on voudrait vraiment que les choses changent ?
Moi, je lui dirais déjà, maintenant, il commence à y avoir des applications. Alors, c'est le paradoxe du système, c'est-à-dire que Google qui nous a livré ces téléphones-là et Apple, etc., nous donne gratuitement des applications pour commencer à mesurer ce qui se passe. Il faut dire la vérité, c'est utile parce que ça permet tout d'un coup de se rendre compte qu'on est vachement accro à ça. La deuxième chose, c'est quand vous faites une activité qui vous tient à cœur, je ne sais pas, vous allez courir, ou vous faites de la musique, ou vous regardez un film.
Moi, j'aime cuisiner, mais justement, les recettes, elles sont sur le téléphone.
Mettez-les sur une tablette, par exemple, où vous avez peut-être moins de notifications. J'ai fait une chose, c'est que j'ai coupé toutes les notifications. Donc, vous vous rappelez ma phrase tout à l'heure, qui tient qui ? Dans cette dynamique-là, c'est moi qui décide d'aller consulter les réseaux sociaux, qui décide de voir mes mails. La seule chose qui va remonter, c'est les appels téléphoniques. Quand quelqu'un veut m'appeler, j'ai mis des numéros qui filent. Donc tout d'un coup, on commence à mettre un peu de distance. Un peu de distance avec moins de notifications. Un peu plus de distance en créant des zones blanches. Parce qu'on ne peut pas tous partir en vacances dans des stations au milieu du désert ou d'un paradis terrestre. Mais donc tout d'un coup, de se dire, il y a des moments quand je vais à table, par exemple. Vous dînez, mettez votre téléphone en mode silencieux et dîner, ça dure quoi ? 20, 30, 40 minutes ? Le monde ne s'écoulera pas.
C'est vrai. Jimmy ?
C'est vrai, moi j'ai commencé par aussi désinstaller ces applications, tout simplement, et supprimer des comptes, notamment Instagram. Je me suis rendu compte que je perdais plus de temps qu'autre chose. Et souvent, je me dis que est-ce que j'étais plus heureux avant Instagram, Twitter, que je le suis maintenant ? Non. Donc on est pollué avec tout ça, en fait.
On est pollué, c'est du micro-temps consommé en permanence, donc des interruptions sur des activités que vous ne pouvez pas mener. On ne peut pas être en relation avec quelqu'un en étant interrompu toutes les deux minutes. On ne peut pas lire un livre en étant interrompu toutes les deux minutes. On ne peut même pas regarder un film, on loupe des passages. Il n'y a rien de plus qui m'énerve quand quelqu'un me dit « Qu'est-ce qui s'est passé là ?»
T'avais qu'à regarder.
Et c'est toujours comme ça. Donc, c'est des tranches de vie. Donc, moi, je ne dis pas...
Vous prenez des micro-parenthèses dans la vie sans numérique du tout. C'est ça, c'est des micro-parenthèses.
Mais comment, si vous
un
voyez...
Un repas 40 minutes, un film une heure...
Voilà. Et puis, moi, le nombre de personnes qui me disent « Je n'ai pas de temps pour me reposer dans la journée parce que j'ai mis l'activité, etc. » Et c'est vrai. Mais je dis, mais regardez combien de temps vous passez sur des objets numériques et regardez s'il n'y a pas quelque chose à prendre là-dedans pour vous reposer.
Pourquoi certains patients, je sais que dans votre livre vous en parlez, pour se remettre finalement, une des astuces, ça peut être aussi de se remettre, alors c'est un peu extrême, un vieux téléphone à clapet. J'imagine mal Jimmy virer son smartphone et prendre un vieux téléphone à clapet. Ça peut avoir des bénéfices fous, hein, parce que notamment vous décrivez le cas d'une femme qui a guéri un urticaire comme ça, en passant un téléphone à clapet.
Oui, alors ça, c'est on voit des cas de figure assez invraisemblables. Alors moi, je raconte une histoire d'un monsieur qui était venu me voir et qui me dit « je ne sens plus rien ». Alors, c'est un monsieur qui a justement une communauté Instagram très élevé. Il a près de 100 000 personnes qui le suivent. Il s'est senti une responsabilité vis-à-vis de sa communauté. Donc, il prenait des photos toute la journée. Il alimentait son fil. Puis un jour, il vient me voir. Il me dit « Je ne sens plus rien ».
C'est-à-dire, je ne sens plus rien.
Ben voilà, c'est toute la question. Ça veut dire, je ne sens plus rien. Je lui dis, il me dit, ben, quand je mange, je ne sens rien, etc. Donc, je lui dis, ben, écoutez, ben, vous me parlez de nourriture. Qu'est-ce que vous aimez? Il me dit, ben, j'aimais les pâtisseries. Et je lui dis, qu'est-ce que vous aimiez? Il me dit, ben, j'aimais les éclairs. Je lui dis, très bien, ben, géolocalisé. Donc, on utilise le téléphone, il ne s'agit pas de l'exclure. La boulangerie la plus proche. Il géolocalise celle qui a le plus de commentaires, etc. Donc, ça, c'est un truc fantastique, quand même, que nous a apporté le social.
Essayez de trouver le meilleur éclair au chocolat.
Donc, très bien. Je lui dis, repérez bien, regardez sur la carte où est-ce que c'est. Bon. Et je lui dis, simplement, vous laissez votre téléphone là, parce que je sais que sinon, il va arriver à la boulangerie, il va faire la photo. Et donc, il se repère, il y va, il se perd un peu. Il redécouvre ce que c'est que de se perdre. Et il revient avec l'éclair, et donc, il me montre l'éclair, et je lui dis, qu'est-ce que ça vous fait? Il me dit rien. Je lui dis, ben, regardez, attendez. Prenez un moment, regardez l'éclair, il voit le glaçage, le côté croustillant de l'objet, etc. Et à un moment, ce que je fais, c'est que je casse l'éclair en deux et je lui mets dans le nez.
Mais pourquoi? Vous êtes si méchant.
Ben, je lui dis, vous le sentez, là?
Ah, c'est énorme. Je n'attendais pas la chute.
C'est ça l'hypnose que je propose. Et donc, il est resté un peu scotché, il ne pouvait plus bouger. Et je lui dis, non, attendez, prenez la question au sérieux. Qu'est-ce que vous avez senti? Il me dit, j'ai senti le froid, j'ai senti la matière. Et ensuite, il me dit, je sens le parfum maintenant. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il a attendu. Parce qu'il n'avait pas mis un filtre, qui est celui de l'écran du téléphone entre les deux dès le départ. Et on a créé par cette attente une mise en relation. Cette mise en relation-là ouvre des dynamiques extraordinaires. C'est ça qui nous permet justement de ne plus laisser s'épuiser un certain nombre de nos facultés.
Jimmy ?
Donc du coup, plus de tablettes, plus de téléphone, plus rien. Et comment on fait avec les adolescents ?
Ah, j'ai pas dit plus rien, rappelez-vous, j'ai dit trouver le bon équilibre.
Ah oui, d'accord. Bon, alors, avec les ados,
c'est radical.
Oui, vous avez raison. Mais du coup, avec les adolescents, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut les punir, les menacer ? Si tu ne me donnes pas ton téléphone, je le jette à la poubelle ou tu vas être privé de sortie pendant une semaine ?
Je pense que ça, c'est perdu d'avance, en toute honnêteté. Je crois que nos adolescents vont vivre avec les objets numériques, notamment depuis qu'ils sont digital natives. Je veux dire, ça fait partie de leur monde et ça fera encore plus partie. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de les sensibiliser à ce sujet-là. La première des choses que moi j'ai fait avec mes ados, c'est que j'ai mis un contrôle parental. Parce qu'il y a un certain nombre de contenus auxquels les enfants ne devraient pas accéder. La deuxième chose, c'est aussi donc, de mettre une temporalité d'utilisation. Donc vous pouvez décider, vous mettez tant d'heures par jour de téléphone portable et à un moment donné, ça s'arrête. Troisième facteur, c'est que par exemple, la nuit, vous pouvez décider que le téléphone s'arrête et se coupe à 23h. Tout ça, géré avec un contrôle parental. Mais l'élément fondamental, c'est de les sensibiliser, c'est de dialoguer. Parce que derrière,
et c'est de montrer l'exemple aussi, je crois.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas leur demander de faire ce que vous faites. C'est inconcevable. Les adolescents sont dans une phase de rébellion normale, naturelle et nécessaire pour pouvoir grandir. Donc là, c'est perdu d'avance. L'autre chose, c'est aussi de leur expliquer que derrière ce digital, ce que je disais, c'est un peu de leur vie qu'ils cèdent. Et ça, les adolescents qui sont dans une révolte vis-à-vis des parents, ils n'aiment pas beaucoup cette idée qu'ils doivent céder. Alors aujourd'hui, la notion de vie privée, ils s'en foutent un peu tous. Mais quand on leur explique que, par exemple, ces grands groupes-là sont capables, et on connaît tous les histoires avec Facebook, etc., eh bien, c'est un peu de notre capacité à décider de notre vie qu'on lâche. Quand on publie des photos sur Insta ou sur Snapchat, etc., on a vu que Snapchat n'effaçait pas toujours les photos. À un moment donné, ils ont dû faire un mea culpa et on voit à chaque fois...
Donc c'est dialoguer avec eux, leur expliquer le fond du truc.
Parce que derrière, c'est notre vie qui est en lien là-dessus. Hein. Rappelez-vous, nous, on pouvait faire des conneries, on était tranquilles. Aujourd'hui, vous faites des conneries, vous les mettez sur les réseaux sociaux, ça reste, ça laisse des traces.
Un autre argument qu'on peut peut-être expliquer aux ados, justement, vous m'aviez expliqué ça en préparant l'émission, c'est que ces grands patrons là, de Twitter, Facebook et compagnie, qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants, eux?
Eh bien, la première
des
choses, c'est que...
Parce qu'ils sont conscients des risques, en fait.
Une grande partie d'eux mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran. Ce qui est intéressant, une autre leur enlève les écrans. C'est un paradoxe.
Vous m'avez donné des cas précis.
Oui,
hein.
On sait par exemple que le patron de Twitter, lui, avait distancié tous les objets numériques de ses enfants pour pouvoir remettre les livres à disposition. Parce qu'aujourd'hui, on va assister à deux classes.
Ils savent que ce qu'ils ont créé, c'est un peu nuisible quand même.
Oui, parce que sur le contenu numérique, vous ne passez plus de temps, on ne passe pas de temps à explorer vraiment un sujet. On lit un article qui va faire 300 mots parce qu'il a été écrit pour être optimisé pour les moteurs de recherche, mais pas pour le référencement. Et donc, on n'a plus le temps de se plonger dans un sujet véritablement, ce qui va créer une classe de gens qui vont être habitués à avoir du contenu pré-mâché, hyper synthétisé, court, et d'autres qui vont encore apprendre à approfondir un sujet. Et
à ça, imaginer des choses aussi, c'est ça les livres.
Et voilà, et le dernier facteur, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, toute cette information, elle est digérée et envoyée, votre imaginaire ne joue plus un rôle. Quand vous lisez un livre, quand vous écoutez une musique, quand vous écoutez une émission de radio, nous
comme
sommes
celle-ci
en train de parler,
que vous êtes en train d'écouter, évidemment.
Voilà, nous, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est processé dans votre tête, vous avez des images qui viennent, et donc tout ça cultive un facteur qui est celui de votre imaginaire, qui est la clé, une clé déterminante dans la construction de vos idées qui vous appartiennent.
Jimmy ?
Et vous avez un conseil, une astuce, une règle, la règle des 20-20-20 pourrait appliquer.
Oui, alors c'est une chose qui est vraiment importante. Alors elle n'est pas à moi, ce sont des scientifiques anglais qui l'ont théorisé, qui disent que on a des problèmes d'acuité visuelle qui naissent à l'utilisation intensive des écrans. Rappelez-vous, on est maintenant, la plupart des gens sont devant un ordinateur au bureau. Ils sortent dans les transports, ils ont leur smartphone, ils regardent l'épisode qu'ils n'ont pas fini de regarder, puis ensuite les réseaux sociaux quand
ils ont
fini l'épisode.
Moi, je fais ça, j'avoue.
Je ne dis rien. Et puis ensuite, ils sont à la maison, ils regardent un film, et après, ils sont au lit, ils regardent encore quelque chose. Bon. Donc, la règle des 20-20-20 consiste simplement à se donner un peu de repos à nos yeux en mettant une forme de minuterie et toutes les 20 minutes de regarder pendant 20 secondes à 20 pieds. 20 pieds, c'est à peu près 6 mètres, pour simplement recréer de la profondeur de champ, parce que l'écran, c'est plat aujourd'hui. Et donc, tout d'un coup, on commence à reposer ses yeux et aussi à redonner des dynamiques à ses yeux, de remuscler. Et en particulier, si vous êtes non-fumeur, eh bien, vous n'allez jamais sortir.
Ce qui est notre cas à tous autour de la table.
Voilà. Hein. Donc, vous n'allez jamais faire de pause. Donc, le nombre de fois où j'ai amené des gens à leur dire, écoutez, j'aimerais que vous fassiez une pause clope deux fois par jour, sans clope, pour que les gens puissent déconnecter de leur écran.
Une pause, je regarde les oiseaux, par exemple. Hein, c'est
voilà,
ça
écoutez, vous les écoutez, même, peut-être, voire même les deux en même temps. Allez.
On en vient quand même à la fin à votre spécialité, l'hypnose et même l'auto-hypnose. Ça peut aider dans ce cas-là, dans cette envie de déconnexion. Comment on fait avec l'hypnose ou l'auto-hypnose pour
Je vais vous raconter une histoire que je cite dans le livre. Un jour, j'ai des parents qui viennent me voir avec un enfant. Ils sont hyper écolos. Ils ont du digital partout pour économiser le papier, etc. Et ils me disent, voilà, on a un problème. Notre enfant a un trouble de l'attention. C'est le psychologue qui l'adresse. Et j'observe et je vois en effet que, en discutant avec eux, ils sont en fait les uns et les autres complètement séparés, ils sont tous sur leur écran tout le temps. Et ma première suggestion, ça a été de leur dire, créez des moments où vous restez ensemble, où vous vous parlez de la journée, qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, et justement en mettant vos téléphones en mode avion ou en silencieux. Et je leur dis, vous savez, je ne veux pas rentrer dans un débat écologique, je leur dis, mais la pollution numérique, c'est pas rien quand même. Interpol a mis en place des unités de surveillance parce que le trafic d'éléments numériques est invraisemblable et ça se recycle très mal. Il suffit d'aller voir au Bangladesh les fleuves inondés. Alors il se réveille, il me dit « Ah bon ouais. ?» On dit « Les livres papier, c'est pas si mal non plus. » Et puis, petit à petit, en redialoguant, en renouant avec l'ensemble de la famille, en passant du temps justement à aller faire des balades en forêt, là où il y a moins de réseaux, et toujours en mettant ce mode hors avion pour
ça,
pouvoir renouer.
Ça, c'est de l'hypnose aussi, c'est ça ?
Oui, parce que c'est ce que moi j'ai appelé l'hypnose écologique, c'est-à-dire une hypnose en lien avec son écosystème, avec son environnement, avec sa maison. Sa maison, c'est la planète. Et donc l'hypnose, ce n'est pas l'hypnose de spectacle, comme on l'entend, c'est simplement renouer avec tout notre tissu relationnel, tout ce que nous ressentons, pour nous mettre en lien avec l'existence.
C'est se recentrer sur soi-même, hein, c'est ça l'auto-hypnose, c'est se poser des bonnes questions.
C'est se recentrer sur soi-même pour être présent au monde.
Et comme ça, on quitte un peu ses tablettes et ses smartphones.
Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être au courant forcément de tout ce qui se passe dans le monde entier, surtout qu'en particulier, on ne connaît pas ses voisins.
Merci beaucoup, Léonard Anthony, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on va pouvoir entamer une déconnexion tout en douceur. Et on a compris que pas besoin de rejeter tout en bloc, mais il faut juste arriver à reprendre le contrôle sur les écrans. Je rappelle le titre de votre livre, Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer, chez Flammarion. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux caries. Comment ça se forme une carie? Pourquoi certains en ont plus que d'autres? Et on reviendra bien sûr sur les traitements. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des caries. Savez-vous comment se forme une carie? Pourquoi certains en ont plus que d'autres? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est un excès de sucre sur les dents. Et effectivement, ça fait très mal, une petite carie.
Une carie, c'est un petit trou dans la dent. Ça fait très mal.
Une carie, ce n'est pas uniquement quand on mange trop de sucre. Ça peut être aussi dû à un problème de salive trop acide. C'est ce que m'a dit ma dentiste.
Ceux qui sécrètent peu de salive, ils ont souvent des caries. Ceux qui sécrètent beaucoup de salive ont beaucoup moins de chances d'avoir des caries, ce qui est mon cas.
Non, une carie, ça fait pas mal, sauf quand on va chez le dentiste.
Généralement, on a des caries parce qu'on ne sait pas bien laver les dents ou...
C'est pas beau, donc vaut mieux l'enlever et aller chez le dentiste.
Il faut combler finalement cette fissure sur l'émail de la dent pour éviter que ça atteigne le nerf.
Pour mes filles, je leur dis de faire attention, de bien se laver les dents après chaque repas. Bon, le midi, c'est un peu plus difficile puisqu'elles sont à l'école, mais voilà, au moins matin et soir.
Pour le traiter, soit on dévitalise la dent, quand je dirais on est arrivé un petit peu trop tard, ou sinon, pour traiter la carie, on met un plombage.
Alors Dimitri, reprenons depuis le début d'abord. Une carie, c'est quoi précisément ?
Alors, la carie, c'est la destruction progressive de la dent par des bactéries. Et ces germes se multiplient dans la plaque dentaire et déminéralisent l'émail et la dentine. Elle commence toujours vers de l'extérieur et elle va vers l'intérieur de la dent.
Ça ronge la dent, quoi.
Exactement. Et ça peut aller jusqu'à la pulpe et provoquer donc des douleurs, voire un abcès dentaire. Et souvent, les gens vont consulter seulement lorsqu'ils ont mal et lorsqu'on a mal.
C'est une énorme carie.
Ah oui, c'est déjà trop tard.
Exact. C'est pour ça qu'il faut aller régulièrement chez le dentiste pour vérifier qu'on n'en a pas des petites. C'est plus facile à soigner. Alors, Jimmy, on sait qu'il y a plusieurs causes qui favorisent l'apparition d'une carie, notamment. On parle toujours du sucre, tu manges trop de bonbons, t'auras des caries, mais il n'y a pas que ça. Hein.
Oui, le plus gros pourvoyeur de caries, c'est la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est une sorte d'enduit qui est formée notamment de protéines salivaires, de déchets alimentaires, les sucres dont on parle, mais aussi des acides et des bactéries. Et cet enduit se dépose à la surface des dents et des gencives. Les bactéries se multiplient et provoquent la densification de la plaque dentaire. Et en se calcifiant, ça forme le tartre.
Et, oui.
Et ce tartre, c'est riche en acides et ça attaque les dents. Et il y a aussi des petites bactéries, qu'on a notamment le Streptococcus mutant, se nourrit du sucre et forme des acides. Et à partir de cet acide, on aboutit aux caries. Donc on a parlé du sucre qui est l'ennemi aussi des caries. Mais on ne parle pas de tous les sucres forcément. C'est surtout le saccharose, le sucre en poudre ou en morceaux, et les sucres industriels, ceux qu'on retrouve dans les gâteaux, les sodas et les confiseries.
Ça, il n'y a pas pire pour les dents, effectivement. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les caries, on peut en avoir à tout âge, même chez les tout petits bébés. Moi, je sais que vous en parlez souvent dans l'émission, vous insistez beaucoup sur ces caries, là, du biberon.
Du biberon et du rituel lié à l'endormissement. Certains enfants nécessitent un rituel, et un mauvais rituel, c'est de les endormir avec le biberon. Le biberon, on oublie qu'il est fait de lait, et le lait, c'est riche en sucre, et donc le dernier repas qu'il aura ingéré et avec lequel il va s'endormir, c'est un bain de sucre.
Un bain de sucre dans les dents, quoi.
Exactement. Qui va macérer, former ces acides et donner des caries. Donc
Toute la nuit, on a moins de salive.
Exactement.
Donc ça nettoie pas.
Donc on n'endort jamais un bébé avec un biberon. On lui brosse les dents après et même lorsque l'enfant est allaité.
On nettoie au moins parce que c'est pas facile.
Au minimum. Ouais. Mais si l'enfant a des dents, on peut lui brosser. Et une astuce qu'on peut aussi vous donner, vous savez, la tétine qui tombe par terre et qu'on veut absolument mettre dans la bouche pour la ramasser et puis la nettoyer. Eh ben, faut surtout pas faire ça. Puisque les caries se forment à partir d'une bactérie qu'on va transmettre.
Ah oui, moi je l'ai dans la bouche, je la lèche, la tétine, je lui remets, il va avoir une carie.
Exactement. Et donc on va donner des caries de façon indirecte à ses enfants, notamment lorsqu'on n'a pas une hygiène bucco-dentaire parfaite. Je sais que c'est pas votre cas, mais la mienne elle est parfaite.
Non, pas du tout, je me la mets dans tout le temps.
Voilà, donc on ne ramasse pas une tétine, en tout cas on la ramasse, mais on la met pas à la bouche, ni la sucette,
ni sous l'eau éventuellement.
Exactement.
Mais...
Et ni la purée qu'on veut goûter. Vous savez, on met toujours dans la bouche, on ne fait pas ça. On va transmettre des bactéries. Donc attention, notamment à ça.
Et pourquoi, Jimmy, il y a des gens comme vous... il y a des gens qui ont beaucoup de caries et des gens comme moi qui n'en ont jamais.
Alors, on n'est pas tous égaux face aux caries. Évidemment que certains ont des dents plus fragiles et susceptibles d'être caries, mais c'est souvent parce que leur émail est plus mince, mal minéralisé ou moins bien résistant aux acides et à la plaque dentaire. Alors, on a aussi des gens qui ont un comportement inadapté, c'est-à-dire qu'ils vont décapsuler une bouteille avec leurs dents.
Ah oui.
On va forcément abîmer nos dents, abîmer notre émail. Et puis, parfois, certaines malposition dentaire, des dents qui seraient mal positionnées, sont plus sensibles.
Parce que
peuvent...
les bactéries vont se coincer,
exactement.
Ça dépend si elles ne sont pas bien alignées.
Exactement. Mais bon, globalement, on n'est pas tous égaux, comme face à la maladie aux caries.
Bon, et très 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 rapidement, puisqu'on n'a plus le temps, ça se soigne, bonne nouvelle, c'est ça.
Ça soigne, ça ne fait pas si mal que ça. Quand on n'attend pas un stade évolué de l'abcès, c'est remboursé aussi par la Sécurité sociale. Il y a plein de techniques différentes. Bref, n'attendez pas d'avoir mal pour aller voir votre dentiste.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo aujourd'hui. On verra s'il est vraiment nécessaire d'informer beaucoup son ado, bientôt en âge d'avoir des rapports sexuels, jusqu'où peut ou doit aller l'éducation sexuelle des parents. On vous dit tout dans un instant.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Sidonie, 46 ans, je vous la lis. Ma fille est adolescente, je ne voudrais pas qu'elle s'aventure dans la sexualité sans connaissance. Mon mari me propose de nous réunir tous les trois pour, schéma à l'appui, lui expliquer comment ça marche. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, pour répondre à Sidonie, est-ce que l'idée là d'une grande réunion de famille, comme elle vient de nous l'expliquer, pour expliquer à son ado autour de la table comment tout ça fonctionne, est-ce que c'est une bonne idée ?
Je ne sais pas, mais
le repas de famille, alors viens, on te fait des schémas, on t'explique. Bon, je ne sens pas trop.
Ce n'est pas nécessairement la meilleure des idées. Tout simplement parce que d'abord, on attend le désir d'un enfant d'avoir des explications. Alors quand je dis désir d'un enfant, c'est ou expliquer très clairement, enfin demander très clairement,
hein, voilà, déjà l'enfant, ouais.
ou de façon plus sibylline, mais en tout cas, on sent qu'il y a des interrogations, ou des inquiétudes, ou des manquements dans le comportement où elle ne mesure pas nécessairement.
Elle ne dit même pas. Ouais. Voilà. Dit même pas si son ado a posé des questions, on n'en sait rien dans la question.
Donc,
mais ouais.
Donc à partir du moment où une enfant ne sait pas comment se comporter, qu'elle passe entre pudeur et une sorte de jeu exagéré de féminité, peut-être faut-il l'aider à comprendre qu'il y a des choses qui se jouent, des images qu'elle renvoie et ce que ça induit, et si elle se sent capable de ce qu'elle induit, ça oui, mais parce qu'on observe des choses dans le non-verbal ou parce qu'elle pose des questions.
Mais justement, si l'ado, par exemple, elle est très demandeuse, elle pose plein de questions, qu'elle n'est pas gênée, est-ce qu'on peut envisager la petite réunion familiale avec papa, maman autour de la table où on aborde toutes les questions qu'elle se pose?
Tout dépend à qui elle veut poser les questions, parce que parfois la présence paternelle n'est pas une très bonne idée ou la présence maternelle n'est pas une très bonne idée selon les enjeux des relations. Donc le mieux, c'est, il me semble que tu as plein de questions, est-ce que tu veux que je t'y réponde? Est-ce que tu préfères que ce soit papa? Est-ce que tu veux que, comme ça, t'ont rompu, tu nous poses des questions auxquelles on essaie de répondre l'un l'autre, parce que tu sais, nous, on a chacun nos points de vue, mais on pourrait peut-être t'enrichir tous les deux. Parce qu'il n'est pas question d'exclure non plus le père quand c'est une fille ou la mère quand c'est un garçon. Ceci étant, contraindre tout d'un coup à l'exercice obligé, ça peut être vécu comme un truc bien dégueu.
Jimmy,
est-ce qu'il faut anticiper, commencer à parler sexualité justement aux adolescents? Et si oui, à quel âge on commence?
Je crois qu'il ne faut pas tellement parler de sexualité, mais par contre, il faut commenter la sexualité qui est partout. Parce qu'elle est, dans les films, ne serait-ce que les films tout à fait normaux, hein, ne parlons même pas de pornographie.
On voit des couples dans des lits, et on voit rien de spécial concrètement, mais on voit qu'il va se passer quelque chose.
Exactement. D'ailleurs, les
on
enfants...
On dit quoi, là, face à ce premier film, où on a un gamin, je sais pas, de 10-12 ans, et on a une scène, on lui dit quoi à l'enfant à ce moment-là?
D'abord, on observe comment chacun, c'est souvent assez touchant, c'est la famille se fige devant l'écran.
Les enfants en berque.
Alors, ou ne le font pas. Ou alors, c'est à ce moment-là où tu... Et alors donc, tes devoirs, tu les sens bien aujourd'hui? C'est assez touchant parce que finalement, le malaise est perceptible souvent chez l'adulte, que l'enfant, évidemment, ne manque pas de percevoir. Ou alors, le pire serait qu'il y ait des commentaires gourmands des parents qui mettent évidemment les enfants en difficulté.
Pas exagérer non plus.
Non, mais ça se peut en disant, oh là là...
Mais si on a un enfant qui fait burk, par exemple, qui dit, ah, ils font quoi la burk? Moi, je sais qu'à 10 ans, c'est ce qui fait les filles en ce moment, c'est le dégoût. Il me dit, ah, les filles, burk. Et donc, on dit quoi, là?
On dit, alors oui, burk, et pourquoi? Je comprends, mais c'est pas encore ton temps, ou c'est pas ton âge. Ou alors, pourquoi? Parce que c'est ceci, c'est cela. Et du coup, c'est faire parler plus que de donner des réponses. En fait, je crois que dans l'éducation sexuelle d'un enfant, c'est plus l'aider à verbaliser et l'aider à comprendre ce qu'il dit lui-même et l'aider à cheminer, parce qu'il changera d'avis, il aura d'autres points de vue au fur et à mesure de son émancipation, de sa maturité, plutôt que de dire c'est comme ça, tu aimeras ça, tu feras ça.
Ah bah non,
parce
ça,
que là, c'est extrêmement enfermant, et puis surtout, ça, c'est très anxiogène, parce que l'enfant a le sentiment qu'on l'enferme dans la sexualité parentale.
Jimmy ?
Mais est-ce que les enfants ont vraiment besoin des parents pour aborder la sexualité ? Ils ont finalement des films, internet, des amis. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par là? Est-ce qu'on est un interlocuteur privilégié ou on peut confier ça à quelqu'un d'autre, par exemple, si on n'est pas très à l'aise?
On peut le confier bien sûr à quelqu'un d'autre. Parfois, c'est souhaitable, parce que parler à ses parents de sexualité, parfois, on a le sentiment d'un mélange des genres, parce qu'on a l'impression que le verbe, déjà, est expression de sexualité et que c'est le partage avec les parents, ce qui est incestueux. Maintenant, les parents peuvent être là au rendez-vous pour désamorcer ce que, justement, les copains, la pornographie, Internet, etc., véhiculent, le cas échéant. Mais si l'enfant, comme souvent les enfants disent « Oh, ça va », et puis ils claquent la porte, et il faut le respecter, il ne faut pas aller leur courir après, ou se balader avec un sac de préservatif.
Oui, on leur met pas discrètement le préservatif dans le sac ou sous un oreiller en disant « Oh là là, si jamais tu en as besoin », on ne fait pas ce genre d'acte
pas en traître, mais on peut, voilà, parce que ça veut dire que d'abord on rentre dans une sphère intime, mais on leur demande éventuellement s'ils le souhaitent, ou tu sais qu'il y a des attentions à avoir, des sécurités à avoir, donc si tu veux...
Je peux t'acheter des préservatifs. Peux,
etc. Ouais. Ou alors on mandate un copain, une copine qui sont proches de ses enfants et qui joueront le rôle d'un parrain ou d'une marraine.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.